Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, ce jour de célébration des fêtes de Pâques, je suis heureux, sinon honoré, de recevoir Monseigneur Charbel Malouf, exarque patriarcal de l'église Melkite en France. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Sébastien.
Alors vous êtes venu plusieurs fois déjà à notre micro pour évoquer soit l'église de Saint-Julien le Pauvre, soit votre travail sur les pères cappadociens. Et vraiment je vous remercie d'être venu parce que ça doit être compliqué en ce moment pour vous. Vous êtes à la fois peut-être fatigué et ému.
Très fatigué, très ému, et je commence cette émission par la belle salutation de Pâques. Dans notre tradition, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et quand on regarde vraiment la profondeur de cette salutation, on est tout le temps ému, on est tout le temps touché par le mystère, et même si on est fatigué, très fatigué, on oublie la fatigue parce qu'elle est belle.
Alors cette semaine sainte s'est déroulée de manière... ça s'est bien passé?
Ça s'est très bien passé. La semaine sainte, vous savez, hein, c'est la semaine la plus belle, la plus profonde, la plus fatigante pour les prêtres. Mais c'est là où vraiment on vit l'expérience pascale, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, comme si vraiment on était présent avec Jésus, avec les apôtres, avec Marie, au pied de la croix et devant le tombeau vide.
Vous avez reçu les fidèles de votre communauté, mais j'imagine aussi au-delà des membres de l'église Melkite en France. Ce sont des assemblées qui ont été pleines, d'après ce que j'ai entendu.
C'est toujours plein la semaine sainte. Déjà, les rameaux, nous avions à peu près 1500, voire plus, de fidèles qui viennent de partout, de Paris, banlieue, des orientaux, des Français, pour fêter avec nous, pour fêter avec leurs enfants aussi. Et donc, effectivement, toutes les célébrations, tous les offices, à partir de lundi de la semaine sainte, étaient pleins. Et là aussi, j'ai senti la ferveur de nos croyants, de mes paroissiens qui sont toujours là pour prier, pour vivre ce moment intense de la foi chrétienne, cette participation à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous êtes exarque, mais vous êtes prêtre surtout, vous êtes chercheur. Est-ce que ce contact avec la liturgie, ce contact quotidien, cette passion, ce cœur que vous mettez dans votre fonction, est-ce que c'est aussi important pour vous, sinon plus que la recherche historique?
Vous savez, il y a un adage patristique qu'on le retrouve partout, lex orandi, lex credendi. Celui qui prie, c'est celui-là qui est théologien et inversement. C'est-à-dire que la liturgie est un lieu théologique par excellence, est un lieu de spiritualité, est un lieu de rencontre avec Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de théologie pour les orientaux et pour les pères sans la liturgie. C'est pour cela que la liturgie, les offices, et notamment les offices pendant la semaine sainte, est un lieu théologique par excellence où vraiment nous vivons ce que nous cherchons par rapport à la vérité, par rapport à la paix, par rapport à la joie intérieure. Nous vivons cela d'une façon intense avec Jésus-Christ. Donc je pense que l'expérience de la semaine sainte est une expérience liturgique, communautaire, parce qu'on ne vit pas tout seul, c'est toujours dans un cadre, dans un office, avec les paroissiens, avec les autres prêtres, les séminaristes, etc. mais aussi c'est donc un lieu théologique personnel et communautaire où on vit vraiment, où on touche vraiment le mystère pascal et surtout que la théologie, que la recherche théologique n'est pas uniquement une recherche spéculative. Et c'est ce qui vraiment change, à mon avis. Il y a un va-et-vient vital entre la liturgie comme un lieu théologique, comme une expérience, hein, et la recherche intellectuelle qui, à mon avis, s'adapte et s'oriente à partir et à travers cette expérience liturgique.
Est-ce qu'au fond, le chrétien ne redevient pas croyant précisément pendant cette période de la Semaine Sainte ?
Vous savez, j'ai eu beaucoup d'échos, et comme chaque année, des gens qui assistent à tous les offices pendant la Semaine Sainte, tous les jours, et ils sont bouleversés. À la fin, ils sont, je peux dire, à travers cet échange avec eux, ils sont transfigurés. On voit vraiment les signes de la résurrection, de la renaissance, du renouvellement, du dépassement du péché à la vie, hein, à la gloire, à la beauté. C'est pour cela que, et d'ailleurs, notre tradition liturgique ne cesse de le dire, de le chanter. On regarde la beauté à travers la croix. On regarde la gloire à travers la mort. C'est pour cela que la croix n'est pas la fin, c'est au contraire, c'est le chemin de la vie. Si on regarde vraiment cela, à la fois le Christ crucifié et ressuscité, on voit que tout change. Et on est changé effectivement par ces belles cérémonies, ces chants magnifiques, ces textes d'une profondeur extraordinaire du point de vue théologique et spirituel. Si on prie vraiment, on ne peut pas ne pas être changé à la fin de cette Semaine Sainte.
Monseigneur Charbel Manlouf, vous n'êtes pas seul. Votre communauté est là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Vous tirez une force aussi de cette foi qui s'exprime autour de vous.
Effectivement, surtout par exemple pour les cérémonies, ne serait-ce que les fleurs, la décoration, le nettoyage de l'église, quand je vois les paroissiens et les paroissiennes sont mobilisés pour préparer l'église, pour nettoyer, pour décorer, je vois des signes, vous voyez, palpables de leur foi, de leur engagement et de leur expérience pascale. Ils veulent et elles veulent, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes, ça me rappelle aussi les femmes Mirefort, elles sont là pour travailler avec moi, pour préparer l'église, pour que tout soit prêt et pour que tout soit parfait dans ces célébrations. Et là, effectivement, je vois que tout le monde est motivé pour vivre ensemble une Semaine Sainte et participer ensemble à ce mystère qui a changé la face du monde, la résurrection de Jésus-Christ.
Il s'agit d'une fête pour l'Église, il s'agit aussi d'une fête pour la communauté, mais tout autant s'agit-il d'un chemin à titre personnel pour chaque croyant.
C'est effectivement cela, c'est-à-dire à la fois c'est communautaire, mais quand on vit cela avec la communauté, c'est aussi un chemin personnel. Quand vous êtes à l'Église et vous priez, vous entendez les chants, vous êtes porté par les chants, par les textes spirituel et théologique, par l'évangile, par aussi la prédication, eh bien c'est un chemin aussi personnel. C'est un chemin communautaire, on prie ensemble, on loue ensemble, on chante ensemble, mais en même temps, c'est un chemin personnel où chacun est invité à entrer davantage dans le mystère du Christ, dans cette rencontre qui, à mon avis, est toujours bouleversante. Et ça me rappelle tout le temps le chemin de Damas, le chemin de Saint Paul, qui est un chemin de changement radical, de transformation divine. Un persécuteur qui devient l'apôtre par excellence, qui change même la face du monde, et je dirais du christianisme, en donnant cet élan divin et humain à la fois, qui témoigne de cette transformation intime, intérieure, et surtout cette rencontre avec Jésus-Christ ressuscité sur le chemin de Damas qui transforme radicalement Saint-Paul. Et je pense que cette rencontre de Damas, de Saint-Paul, est la nôtre aussi, et surtout dans la Semaine Sainte, qui devient un chemin de libération, de transformation, voire de transfiguration, je peux dire avec les pères de l'Église, de divinisation. On sent qu'on est vraiment changé à la fin. Et c'est un début, parce que ce n'est pas uniquement la fin. Et cela me rappelle Grégoire de Nice, même s'il le dit dans un autre contexte, de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont jamais de fin. C'est-à-dire, c'est la fin de la Semaine Sainte aujourd'hui, enfin c'est le jour de la gloire, de la résurrection, de la joie, mais c'est le début en fait du chemin intérieur, personnel et communautaire avec Jésus, mort et ressuscité pour non seulement l'humanité, le cosmos, l'univers, mais aussi pour chacun parmi nous.
Nous sommes ce matin avec Mgr Charbel Malouf pour les célébrations des fêtes de Pâques. Je serais tenté de vous poser une question sur comment expliquer Pâques aux non-croyants, comment expliquer ce chemin de la Passion, cette ascension. Alors on n'est pas encore dans le cadre de l'ascension au niveau théologique, mais cette élévation vers le mystère au fond. Est-ce que on peut expliquer, justifier ce mystère?
D'abord, le mystère, on peut l'approcher, on peut le comprendre, mais on ne peut pas l'épuiser. Quand je m'adresse aux croyants fidèles, chrétiens ou non, croyants, il faut toujours savoir ce que c'est qu'un mystère. Si j'épuise le mystère, il n'est plus un mystère. Cela ne veut pas dire que c'est un cheminement aveugle. C'est un chemin de foi, mais aussi d'intelligence. Et toute l'expérience de l'Église, des pères, des théologiens, des saints, des mystiques, prouve que c'est un cheminement à la fois intellectuel et à la fois existentiel, qui engage tout l'être humain, corps, âme et esprit. Donc quand je peux m'adresser aux non-croyants, je dirais, par rapport à Pâques, c'est le mystère de la vie. C'est le mystère du renouvellement. Qu'on soit croyant ou non, on regarde la nature, après l'hiver, il y a la renaissance, il y a le printemps, il y a le retour à la vie ou de la vie. Je dirais aussi la résurrection du point de vue naturel, si je puis dire, et ce retour à la vie. Hein, et que des pères de l'Église et des saints ont chanté Pâques comme la renaissance, le renouvellement, le retour à la vie. Mais en même temps, Pâques, ce grand mystère, et comme on le chante le jour de Pâques, la fête des fêtes, le mystère des mystères, c'est aussi, je pense, un mystère divin. On ne peut pas le pénétrer sans le regard de la foi. C'est pour cela, la résurrection est quelque chose, à mon avis, et si on regarde aussi Saint Paul, le grain de blé qui renaît, hein, après avoir été dans la terre, et c'est le processus naturel. Mais en même temps, on ne peut pas s'arrêter là, parce que la résurrection suppose, comme le dit Saint Paul d'ailleurs, et tous les pères de l'Église, suppose le don et la puissance de Dieu. On est ressuscité grâce à ce don qui est donné par Dieu lui-même. Et Jésus lui-même est ressuscité par le Père. Cela veut dire que nous sommes renouvelés et que la résurrection, d'ailleurs, la résurrection est le message chrétien par excellence, c'est pas la croix. Et c'est ce que je dis aussi, et c'est ce que j'ai dit pendant la Semaine Sainte à mes paroissiens. Si on contemple uniquement la croix, la mort, l'échec en quelque sorte, eh bien on est triste, on n'est pas dans l'espérance. Et la foi chrétienne, ce n'est pas la croix, c'est la croix glorieuse. C'est-à-dire la beauté de la croix, c'est-à-dire la transformation de la croix d'un lieu maudit en un lieu béni, en un lieu source de vie, source de salut, source de pardon. Sinon, la croix n'a aucun sens. Et c'est pour cela que toute la tradition orientale médite la croix à travers la résurrection. On ne peut pas méditer la croix uniquement sans le tombeau vide, sans le troisième jour, sans le jour de Pâques. Et donc, le lien est intime et vital et réciproque entre la croix et la résurrection.
C'est ce que je voulais vous dire, cher Belmalouf, c'est que quand on regarde les représentations de la croix, les crucifixions, on voit qu'il y a des manières complètement différentes entre l'Église d'Occident et les églises d'Orient. Une croix glorieuse, une croix parfois même sans la représentation du crucifié. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, finalement, cette différence ?
Justement, il y a des différences, si vous voulez, théologiques au niveau de l'approche.
Et de l'approche humaine.
De la liturgie. Mais moi, ce qui m'attire dans ma tradition, en tout cas orientale, c'est que la croix, évidemment, c'est le lieu du salut. C'est le Christ qui se donne pour la vie de tout le monde, de toute l'humanité. Sans parler d'ethnie, de race, de couleur, il est pour tous l'universalité du salut apportée par Jésus, accompli sur la croix, mais en même temps cette croix, elle est devenue le lieu du salut, le lieu, à mon avis, comme d'ailleurs dit Saint Jean Chrysostome, le lien entre le ciel et la terre, la rencontre entre le ciel et la terre, c'est sur la croix. Et donc la croix n'est pas un lieu de mort, n'est pas un lieu de souffrance, elle est, mais surtout c'est un lieu de salut, un lieu de vie. Et donc, d'où la tradition liturgique d'ailleurs chez nous et la tradition patristique qui contemple la croix comme un lieu de salut, comme un lieu de vie. Et donc, Jésus sur la croix est déjà ressuscité parce qu'il a déjà sauvé toute l'humanité. Rappelez-vous, le cri du larron, « Souviens-toi de moi Seigneur dans ton royaume », aujourd'hui tu seras avec moi dans mon royaume. Et donc c'est évidemment nous sommes dans le chronos, dans la chronologie, mais du point de vue mystique et spirituel et théologique, le Christ sur la croix a déjà accompli la mission du Père et a déjà ouvert à mon avis le royaume, la porte du ciel. Effectivement, il faut attendre aussi le troisième jour où on célèbre avec beaucoup de joie la résurrection, qui n'est pas seulement la résurrection du Seigneur d'entre les morts, mais comme disent aussi les pères, le gage de notre propre résurrection.
Le Jésus humain, le Jésus historique qui devient Christ, sur ce lieu, sur cet endroit ?
Non, parce que justement, ce n'est pas sur la croix que Jésus devient le Christ.
Expliquez-nous.
Parce que ça, c'est une tendance, on peut dire aussi, hérétique des premiers siècles. Vous savez, on parlait du Christ qui devient, enfin, de Jésus qui devient le Christ, ou bien le jour de son baptême, ou sur la croix. Mais c'est pas du tout la position de l'Église, que ce soit catholique ou orthodoxe, en Orient ou en Occident. Le Christ est le Fils de Dieu depuis toute éternité. Et dès le premier moment, si je puis dire, de l'incarnation, il est ce Dieu qui s'est fait chair, comme nous dit Saint Jean dans son évangile. Donc il n'y a pas une élévation en Jésus. Il était un homme et puis il est devenu Dieu. Il est de toute éternité Dieu. Il s'est incarné comme Dieu et il a accompli tout le dessein de l'économie comme Dieu et homme. D'où d'ailleurs la formulation de Chalcédoine, un vrai Dieu et un vrai homme. Et donc, qui évidemment reflète toute la tradition de l'Église, la foi de l'Église, la liturgie de l'Église, que ce soit en Orient ou en Occident. Le Christ est Dieu, et il vit tout cela en tant que Dieu et homme à la fois. Vrai Dieu et vrai homme. C'est pour cela que nous tenons à cette formulation dogmatique. Jésus-Christ a deux natures, une nature divine et une nature humaine, en une seule personne.
La question de la double nature qui est parfois mal interprétée, me semble-t-il.
Tout à fait. C'est pour cela que c'est une bonne question. Ça me permet de rebondir sur cette question et d'apporter un éclairage du point de vue orthodoxe et catholique, oriental et occidental. Le Christ, pour nous, est le Verbe éternel et le Fils de Dieu depuis toute éternité. Comme on dit dans le credo, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Donc, ce n'est pas sur la croix qu'il devient Fils de Dieu. Ce n'est pas le jour du baptême qu'il devient le Fils adopté par Dieu le Père. Il est de toute éternité Fils, Verbe, et il s'est montré comme nous dit saint Paul, dans la plénitude du temps, pour nous sauver et révéler ce mystère éternel qui est le mystère trinitaire, Dieu comme Père et Fils et Saint-Esprit. D'où le lien aussi le jour de Pâques et puis après avec les fêtes qui vont suivre, l'Ascension et la Pentecôte. Évidemment, nous vivons dans le temps parce que le temps est quelque chose qui est, me semble-t-il, ontologique à l'être humain. Nous ne pouvons pas, comme être humain, sortir de l'espace et du temps. Nous sommes obligés, en quelque sorte, d'être ce que nous sommes, de respecter ses limites. Encore une fois, comme nous disent les Pères et Grégoire de Nice, le temps est une entité ontologique en nous. C'est pour cela qu'il y a cette chronologie dans la dans le vécu de l'Église, de l'expérience pascale. Et c'est pour cela aussi, si on regarde le calendrier liturgique, le mystère pascal est le centre de toute l'année liturgique. Parce que c'est là vraiment où l'Église fête le Christ ressuscité dans la gloire.
Une dernière petite question, Mgr Charbel Malouf. Est-ce qu'en ce temps de fin de semaine sainte, en ce temps de Pâques, est-ce que le Liban ne vous manque pas?
Tout l'Orient me manque, le Liban, la Syrie, et surtout quand je regarde ce que nos communautés, nos frères, que ce soit chrétiens ou non, vivent comme un chemin de croix en ce moment. Et croyez-vous que pendant toute cette semaine sainte, ils étaient présents dans ma prière et dans ma pensée. On ne peut pas contempler le Christ sur la croix et le Christ ressuscité sans penser à nos chrétiens d'Orient. Et donc, même si ces chrétiens d'Orient passent par le chemin de Calvaire aujourd'hui, il faut qu'on regarde le chemin de la résurrection, et la résurrection va venir sûrement.
Monseigneur Malouf, un très grand merci pour être venu jusqu'à nous ce matin.
C'est moi qui vous remercie, Sébastien, et remercie toute l'équipe et toute l'émission et ce temps consacré à notre tradition orientale.
Bonne fête de Pâques à tous. Je remercie aussi Dany Journoux, Éric Boisset et Anne-Catherine Lochard pour la réalisation de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Thank you.